Je cours, tu cours, il, elle court, nous courons, vous courez, il, elle court. Qui n'a jamais eu le sentiment que sa vie était une course? Je crois que nous connaissons tous ce sentiment, parce qu'il arrive en effet que nos vies ressemblent à une course, parfois même du soir au matin. Je cours, tu cours, nous courons. Mais pourquoi courons-nous? Pour quoi courons-nous? Vers quoi? Qu'est-ce qui nous fait courir? Qu'est-ce qui fait courir le monde? J'ai tapé cette question dans le moteur de recherche de mon navigateur Internet et je suis tombé sur une chanson que je ne connaissais pas, de Petula Clark. Alors vous voyez, c'est pas ma génération, c'est pas non plus mon style musical, mais bon. Et le titre de cette chanson est justement « Qu'est-ce qui fait courir le monde ?» Alors je vous propose d'en écouter un extrait parce que les paroles collent assez bien avec mon propos.
Non, ce n'est pas la révolution ni la mobilisation, mais c'est affolant de voir tous ces gens qui luttent contre le temps. On dirait des amants jaloux volant au rendez-vous, des chasseurs à pied, des sapeurs-pompiers. C'est insensé, mais qu'est-ce qui fait courir le monde à travers le monde comme des moutons? Mais qu'est-ce qui fait courir le monde? Qui peut répondre à cette question? Mais qu'est-ce que c'est, cette farandole, cette course folle, cette épidémie? Mais qu'est-ce que c'est? Puisqu'il faut courir, je cours aussi. C'est comme des millions de fourmis qui ont perdu leur nid, comme des papillons ou des hannetons qui tournent, tournent en rond. Qu'ils soient pauvres ou bien qu'ils soient riches, ils mangent des sandwichs, se jettent au galop au fond du métro, dans leurs autos. Mais qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait le monde, à travers le monde, comme des moutons? Mais qu'est-ce qui fait courir le monde? Qui peut répondre à cette question? Mais qu'est-ce que c'est, cette farandole, cette course folle, cette épidémie? Mais qu'est-ce que c'est, où est ma boussole? Puisqu'il faut courir, je cours aussi.
Voilà, on s'arrête là. Qu'est-ce qui fait courir le monde? J'aimerais ce matin transformer cette question générale et plutôt impersonnelle en question plus intime pour chacun de nous. Qu'est-ce qui me fait courir? Moi, personnellement, qu'est-ce qui me fait courir? Qu'est-ce qui vous fait courir? Après quoi est-ce que je cours? Qu'est-ce que je recherche quand je cours? Est-ce que je recherche quelque chose? Ou bien suis-je simplement pris dans le mouvement, à l'instar de la fin du refrain de la chanson de Petula Clark qui dit « Puisqu'il faut courir, je cours aussi ». Qu'est-ce qui me fait courir? Qu'est-ce qui vous fait courir? Il n'y a bien évidemment pas de réponse unique à cette question. Chacun apportera une réponse personnelle, une réponse qui va traduire sa personnalité, ses goûts, sa vision du monde, sa compréhension de sa propre vie et bien d'autres choses encore. Il y a donc toutes sortes de réponses à cette question. Qu'est-ce qui me fait courir? Ceci dit, il y a quand même des points communs entre toutes les réponses que nous pouvons apporter les uns et les autres. Et nous constatons que les aspirations humaines sont souvent les mêmes. malgré les nuances que chacun apportera, malgré les spécificités de sa culture, de son éducation, de son époque. Alors je ne m'étendrai pas là-dessus, mais j'aimerais brièvement souligner les réponses les plus communes à cette question: qu'est-ce qui me fait courir? Qu'est-ce qui nous fait courir? Qu'est-ce qui fait courir le monde? Après quoi courent les humains? Et la première réponse que j'apporterai, c'est qu'ils courent souvent après le temps. Petite parenthèse, ça arrive en premier, ça ne veut pas dire que j'ai hiérarchisé et que c'est la plus importante des réponses. Voilà, je les ai mis comme ça venait. Il n'y a pas de hiérarchie dans mes réponses. Je ferme la parenthèse. Nous constatons aujourd'hui que l'être humain n'a jamais eu, en tout cas l'être humain occidental, n'a jamais eu autant de temps libre à sa disposition qu'aujourd'hui. En France, beaucoup sont passés depuis quelques années maintenant aux 35 heures, avec des RTT. Ça fait un moment que nous avons en France 5 semaines de congés payés, de nombreux fériés, des longs week-ends, des ponts qui parfois, au mois de mai, quand ça tombe bien, s'enchaînent de manière assez agréable pour ceux qui les prennent. Et pourtant, beaucoup dont nous sommes parfois courent après le temps. Et nous manquons si souvent de temps. Il y a tant de choses à faire. Et puis nous constatons que nous gaspillons aussi, malgré tout, notre temps. Et souvent, nous agissons comme si nous pouvions rattraper le temps perdu qui l'est à jamais. Nous courons après le temps. Après quoi courent les humains? Ils courent aussi souvent après l'argent. Bien sûr, l'argent est avant tout un moyen pour vivre, pour subvenir à ses besoins. Mais de moyen qu'il est, il peut rapidement devenir un but. Un but en soi, parfois même le but de toute une vie. Et les hommes sont souvent engagés dans une course à l'argent, à la possession de biens, pas toujours indispensables, à l'accumulation de richesses. On travaille plus pour gagner plus, mais pas parce qu'on en a vraiment besoin, mais peut-être parce qu'on a fait des richesses un but en soi. Et la course à l'argent entraîne très souvent la course à la montre. Après quoi courent les humains? Ils courent aussi parfois après une carrière. Beaucoup font de la réussite professionnelle le but de leur vie. Et tout ou presque est alors sacrifié sur l'autel de cette réussite professionnelle. Parfois de la réussite sociale, de la reconnaissance sociale. Et ainsi, de plus en plus de gens rêvent de célébrité. Après quoi courent les humains? Ils courent après leurs rêves. Si de plus en plus de gens rêvent de célébrité, ce n'est pas le seul rêve qui peut motiver. Nous le savons, les rêves sont de puissants moteurs dans la vie. Et beaucoup ont fait de leurs rêves, de leur passion, des buts en soi. On vit pour réaliser son ou ses rêves. On vit dans l'espoir de pouvoir un jour vivre son rêve. On vit pour sa passion ou pour ses passions. Après quoi courent les humains? Ils courent aussi après l'amour, bien évidemment. Et c'est peut-être la motivation numéro un pour beaucoup d'hommes et de femmes sur cette terre. Il y a peu de motivations aussi nobles que celle-là. C'est une motivation universelle, une aspiration universelle qui a inspiré tant de poètes et tous les amoureux du monde entier depuis toujours. Après quoi courent les humains? Ils courent aussi après le plaisir. Beaucoup courent après le plaisir. Alors, les hédonistes ont toujours existé, mais peut-être jamais autant qu'aujourd'hui. Et beaucoup sont dans une course effrénée au plaisir, dans le sens le plus large du terme. On s'amuse, on fait la fête, on s'éclate, on se divertit, on prend du bon temps, on se fait plaisir. On vit dans l'attente de pouvoir faire ces choses. On attend le week-end pour pouvoir enfin vivre, enfin profiter de la vie. Et notre société de consommation est devenue une société de consommation de plaisir et de divertissement en tout genre, dont les sensations fortes sont pour beaucoup le summum. Après quoi courent les humains ? Ils courent aussi après la liberté. Il était impossible de ne pas inclure la liberté dans cette liste, puissant moteur s'il en est. Et pour certains, cette recherche de la liberté, c'est la recherche de la liberté la plus élémentaire. Il suffit de regarder les flux migratoires de ce début de XXIe siècle pour constater cela. Pour d'autres, cette recherche de liberté est plus intellectuelle, plus conceptuelle, plus idéologique. Et dans cette quête, beaucoup oublient que la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. Après quoi courent les humains ? Je vais terminer maintenant avec ce qui aurait pu venir en premier, le bonheur. Si la liberté était indispensable dans cette liste, le bonheur aussi. Certains parleront peut-être plus d'épanouissement personnel ou de réussite de la vie, ou que sais-je encore. Le bonheur fait aussi partie de ces aspirations universelles. Et d'une certaine manière, il englobe un petit peu tout ce qui a précédé, avec bien sûr des nuances. Les hommes courent après le bonheur, et si vous écoutez un petit peu la radio de temps en temps, ou l'autoradio, vous pouvez entendre une chanson qui passe assez souvent en ce moment, Christophe Maé, « Il est où le bonheur, il est où ?» Je ne veux pas vous la chanter, mais beaucoup, je pense, l'ont déjà entendue. Après quoi courent les humains ? Ils courent après beaucoup de choses, en réalité. Et nous courons, nous aussi, certainement derrière certaines de ces choses. Et j'aimerais préciser ici, pour que vous ne me compreniez pas mal, que beaucoup de ces choses sont légitimes et bonnes. Le catalogue que je viens de faire, sommaire, c'est absolument pas exhaustif, n'est pas un plaidoyer contre ces choses. Contre certains de leurs excès, très certainement, mais pas contre ces choses. Beaucoup sont bonnes et légitimes, je le répète. La bonne question qu'il faut se poser ici n'est pas celle du quoi, mais celle du comment. Finalement, celle du sens que je donne à ma vie. Du sens que je donne à ma vie parce que les courses dans lesquelles je m'engage vont forcément orienter ma vie et vont en partie la définir. Petite question philosophique pour vous. Peut-être vous aurez envie de creuser ça cette semaine. Est-ce que c'est le sens que je donne à ma vie qui définit mes courses, ou bien est-ce que c'est mes courses qui définissent le sens de ma vie ? J'aimerais maintenant m'arrêter sur une course que je n'ai pas encore mentionnée jusqu'ici. Une course, bien évidemment, qui nous est proposée dans la Bible. Une course assez différente de toutes celles que nous venons de décliner. Une course qui n'exclut pas ces choses-là qui font partie de la vie, quand elles sont à leur juste place. Mais plutôt qui va les hiérarchiser, qui va mettre les choses à leur bonne place, leur donner un ordre de priorité, leur donner peut-être un autre sens. C'est-à-dire une autre direction, parce que c'est bien ça, la signification du mot sens. Et cette course dont j'aimerais parler, c'est la course de la vie chrétienne, tout simplement. La Bible propose plusieurs images pour illustrer ce qu'est la vie chrétienne. Je pense ici en particulier au texte du Nouveau Testament, où la vie chrétienne est comparée à une marche, Elle est parfois comparée à un combat. Et puis, dans plusieurs textes, elle est comparée à une course. Et la réflexion, enfin la question que j'aimerais poser ici pour avancer dans notre réflexion est la suivante. Que nous apprend l'image de la course sur ce qu'est la vie chrétienne? Et avant de répondre à cette question, j'aimerais lire avec vous le texte que je propose à notre méditation. C'est un des textes où cette image de la course est appliquée à la vie chrétienne. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix, méprisant la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Que nous apprend l'image de la course sur la vie chrétienne? Elle nous apprend premièrement que la vie chrétienne, c'est un choix qu'il faut faire. Une course nous est proposée, elle est proposée à tous les hommes. Mais il n'y a pas d'obligation à y entrer. Il n'y a pas d'obligation à y participer, à y courir. Dieu accorde cette liberté à chacun, liberté précieuse, mais aussi redoutable, de pouvoir entrer ou pas dans la course, dans la vie chrétienne. Que nous apprend l'image de la course sur la vie chrétienne ? Elle nous apprend qu'après avoir décidé d'entrer dans cette course, il faut prendre le départ. Toute course a un départ. Le départ, c'est le point de passage obligé, obligatoire de toute course. Et je ne fais pas partie de la course si je n'ai pas pris le départ. Hein, si je rentre 100 mètres après, ça ne marche pas. Ou je passe par le départ ou je ne suis pas dans la course. Et le départ de la course, c'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Nous parlons aussi de conversion. Et la nouvelle naissance, c'est justement prendre un nouveau départ dans la vie. C'est décider de changer de direction. C'est se détourner de son indépendance à Dieu pour se mettre à la suite du Christ, pour entrer dans la course de la vie chrétienne. Ce qui fait de vous, de moi, un chrétien ce matin, si nous le sommes, ce n'est pas d'être assis là, dans cette église ce matin. Ce n'est pas non plus d'y être assis tous les dimanches de l'année. Ce n'est pas le fait que vous participerez peut-être à l'offrande tout à l'heure. Ce n'est pas non plus d'avoir eu des parents chrétiens. Ce n'est pas nos chants, nos prières aussi belles et aussi beaux soient-ils. Ce n'est pas non plus la connaissance biblique que je pourrais avoir, aussi excellente soit-elle. Peut-être même du plan du salut, je peux comprendre et connaître ces choses. Ça ne fait pas de moi un chrétien. Ce qui fait de moi un chrétien, un enfant de Dieu, c'est d'être passé par la nouvelle naissance. C'est de m'être repenti de mes péchés et d'avoir choisi de mettre ma confiance dans le salut que Dieu m'offre par Jésus-Christ. Voilà ce qui fait de moi et de vous un chrétien. Pour revenir à notre image, c'est d'avoir pris le départ de la course. C'est d'être entré dans la course qui nous est proposée par Dieu lui-même et de l'avoir fait là où il nous le propose. Ce n'est pas moi qui décide où est le point d'entrée. Et le point d'entrée de cette course, c'est la croix de Golgotha, là où le Fils de Dieu a donné sa vie pour que nous puissions entrer dans cette course. Attention donc à ne pas brûler les étapes, à ne pas sauter des étapes. Je ne peux pas courir dans la course de la vie chrétienne à moins d'avoir pris le bon départ. Jésus dira à Nicodème dans l'évangile de Jean, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, ça parle bien de nouvelle naissance, il ne peut voir le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Alors oui, il n'y a qu'un seul départ à la course de la vie chrétienne, c'est celui de la conversion, de la nouvelle naissance. Et nous devons donc faire attention aux faux départs. Nous devons donc faire attention à ne pas nous illusionner sur notre compte. Attention aux vies chrétiennes qui n'en sont pas, parce qu'elles n'ont pas commencé par la nouvelle naissance. Alors je ne dis pas ça pour effrayer qui que ce soit, mais peut-être tout simplement pour que l'un d'entre nous ce matin prenne conscience qu'il n'a pas pris le bon départ. Et si cela était le cas, alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard pour prendre ce bon départ aujourd'hui. Il n'est pas trop tard pour entrer aujourd'hui dans la course. Un chant que nous chantons parfois dit ceci, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro. Avez-vous pris le bon départ? Que nous apprend l'image de la course sur la vie chrétienne? Elle nous apprend que s'il y a un départ, il y a aussi une arrivée. La vie chrétienne a un but, elle a un horizon, elle a une espérance. Et nous n'avançons pas ou nous ne courons pas au hasard. Nous courons vers ce but qui est la vie éternelle avec Jésus-Christ, avec Dieu. Cela veut dire que la course chrétienne est une course orientée. Nous savons vers quoi nous allons. Nous ne courons pas au hasard. Nous ne sommes pas partis à l'aventure sans savoir où nous allons. Nous courons vers un but. Et l'apôtre Paul le dira précisément dans ce verset de l'Épître aux Philippiens. Ce n'est pas que j'ai déjà obtenu tout cela, ni que je sois déjà parvenu à l'accomplissement, mais je le poursuis, tâchant de le saisir pour autant que moi-même j'ai été saisi par Jésus-Christ, nouvelle naissance. En ce qui me concerne, mes frères, je n'estime pas moi-même l'avoir déjà saisi. Mais une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but. La vie chrétienne est une course orientée. Nous savons vers quoi, ou plus précisément, vers qui nous courons. Et quelques versets auparavant, l'apôtre Paul écrit qu'il a décidé de tout perdre afin de gagner le Christ. Tout perdre pour gagner le Christ et d'être trouvé en lui. C'est le verset 9 de ce même chapitre. Pour l'apôtre, le prix, la victoire, la récompense, c'est Christ lui-même. C'est bien lui qui est au commencement et à la fin de notre foi. Nous fixons nos yeux sur lui, par la foi, jusqu'au jour où nous le verrons face à face. Et ce jour-là, quand nous le verrons face à face, nous aurons achevé notre course. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, dans cette perspective, écrivait à Timothée, « Quant à moi, en effet, je suis déjà répandu en libation, et le temps de mon départ est arrivé. » J'ai mené le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé sa manifestation. La vie chrétienne est une course, il y a un départ et il y a une arrivée. Que nous apprend l'image de la course sur la vie chrétienne? Elle nous apprend aussi qu'il y a des règles. Dieu a fixé les règles de cette course. Le texte de l'Épître aux Hébreux, que je remettrai dans un instant, nous éclaire à ce sujet puisqu'il dit qu'il nous faut rejeter tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement pour courir. Rejeter pour courir. La vie chrétienne n'est donc pas quelque chose à la carte. Vous savez, ça, c'est très à la mode. Il ne s'agit pas de faire son propre menu, où chacun choisit ce qui lui convient et laisse de côté les choses qui l'embêtent, qui ne lui plaisent pas, les aspects qui le dérangent, contraignants de la foi. La vie chrétienne n'est pas dans cette, n'est pas comme ces spiritualités contemporaines, où chacun choisit les ingrédients. Vous savez, on fait son marché, c'est ce qu'on appelle le syncrétisme. Ah ben là, il y a quelque chose qui me plaît, là aussi, donc on fait son marché, et puis on fait sa petite religion personnelle. C'est très dans l'air du temps. C'est le relativisme total. Ce qui est bon pour moi n'est pas forcément pour toi, et vice-versa, et donc chacun fait ce qu'il veut, finalement ça se résume à ça. Il n'y a plus de vérité absolue, mais chacun se fabrique sa propre vérité. Il n'en est pas ainsi de la vie chrétienne. Si Dieu respecte nos choix dans bien des domaines, c'est néanmoins lui qui fixe les règles et les limites de la vie chrétienne. Il en est l'auteur. Et il me faut donc, si je veux courir cette course, la courir selon les règles de celui qui les a définies. Que nous apprend l'image de la course sur la vie chrétienne ? Elle nous apprend ensuite que nous ne sommes pas seuls à courir. Nous sommes, dit le texte de l'Épître aux Hébreux, environnés d'une grande nuée de témoins. Et nous ne sommes pas en compétition les uns avec les autres ou contre les autres. Hein, les courses, c'est généralement une compétition. Ce n'est pas le cas, c'est la limite de l'image de la course appliquée à la vie chrétienne. Nous ne sommes pas dans une compétition où il n'y a qu'un vainqueur. Nous sommes partenaires les uns des autres, coéquipiers, puis pour le dire avec un jargon plus évangélique, nous sommes frères et sœurs en Christ. Nous sommes ensemble dans cette course. C'est vrai que nous y sommes d'abord à titre individuel, mais ensuite, nous y sommes ensemble. Ensemble dans la même direction. Ensemble pour avancer ensemble. Ensemble pour nous entraider. Ensemble pour nous encourager. Ensemble vers ce même but. Et ça, chers frères et sœurs, c'est très souvent exigeant. Si vous vivez une vie d'église, vous le savez, ça ne se fait pas tout seul. C'est exigeant, mais c'est avant tout une grâce et un privilège extraordinaire que de pouvoir être dans cette course à côté de frères et sœurs en Christ qui vont dans la même direction et qui m'accompagnent sur ce chemin-là. Que nous apprend l'image de la course sur la vie chrétienne ? Elle nous apprend ensuite que la persévérance est indispensable. Ce n'est pas tout de commencer à courir. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut finir la course, il faut persévérer, il faut courir avec persévérance la course qui nous est proposée. L'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit d'ailleurs ainsi, il exhorte ses lecteurs à courir avec persévérance la course, l'épreuve qui leur est proposée. Et la vie chrétienne, la course de la vie chrétienne ne peut pas se courir sans persévérance, sans endurance. Il y a souvent au commencement de la vie chrétienne, nous l'avons certainement expérimenté si nous sommes passés par cette nouvelle naissance, un élan qui nous fait parfois avancer tout seul. Nous sommes comme portés. Le premier amour est souvent débordant et nous sommes pleins de zèle, et nous faisons quelques bêtises, tellement nous sommes remplis de zèle. Nous aimerions que tout le monde comprenne ce que nous avons compris. Nous sommes pleins d'entrain, nous manquons parfois de tact. Et il n'est pas rare que le jeune chrétien se fasse un tas d'illusions sur ce qu'est ou sur ce que n'est pas la vie chrétienne. Après l'euphorie du départ, il y a inévitablement une certaine routine qui s'installe. Et puis inévitablement la confrontation avec tout ce qui vient questionner ma foi. Et ça, ça ne manque pas. Et il y a un moment où le premier élan ne nous porte plus. Il faut passer à autre chose. Et c'est là qu'il faut commencer à persévérer. C'est là qu'il faut commencer à persévérer au risque de ralentir notre course, au risque peut-être même de nous arrêter dans notre course. Notons que tout ce que je viens de dire, ça peut fonctionner dans un autre ordre, hein, c'est pas... L'élan peut-être venir un peu plus tard, pas tout de suite au début, enfin, chacun est différent. Dans son épître aux Galates, au chapitre 5, verset 7, l'apôtre Paul va interpeller ses lecteurs. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire, vous couriez, si bien, vous couriez si bien. Qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité? La vie chrétienne est une course qui demande de la persévérance, au risque de se retrouver en panne sur le bas-côté. Mais alors, peut-être que vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette persévérance? Alors, je vais simplifier et vous proposer de comprendre simplement la persévérance comme le désir de continuer, la volonté de continuer. Et c'est continuer quelles que soient les circonstances de ma vie. C'est continuer que ce soit facile ou difficile. C'est-à-dire que le soleil brille dans ma vie ou bien que je sois au milieu de la tempête. C'est continuer quand je vois les bénédictions de Dieu dans ma vie et c'est continuer quand je ne les vois pas ou quand je ne les vois plus. C'est continuer quand j'ai l'impression que Dieu est absent de ma vie, que Dieu est silencieux et qu'il ne répond pas à mes prières. C'est continuer quand Dieu dit oui, et puis aussi quand Dieu dit non. C'est continuer quand les portes s'ouvrent devant moi et que j'ai l'impression que le tapis rouge est déroulé, et puis c'est continuer quand les portes se ferment et que je ne sais plus comment continuer. C'est continuer quand Dieu dit « Ma grâce te suffit » et qu'il nous faut alors avancer avec une écharde dans la chair. C'est continuer quand nous avons envie de baisser les bras, envie d'abandonner. C'est là que nous devons persévérer. Persévérer, c'est continuer. C'est continuer car ce qui nous fait avancer, c'est la foi. Ce n'est pas la vue. C'est continuer car nous savons en qui nous avons cru. C'est continuer car nous avons été saisis par l'amour du Christ. Et puis c'est continuer parce que nous avons les promesses de Dieu. Promesses que rien ne nous séparera de son amour. Promesses que Dieu rendra parfaite l'œuvre qu'il a commencée en moi, en chacun de ses enfants, il la rendra parfaite au jour de Jésus-Christ. Promesse que c'est lui qui nous donnera le vouloir et le faire. Promesse de la présence et du secours de son esprit, jour après jour. Promesse qu'il peut, par la puissance de son esprit, faire en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons et même de ce que nous pensons. Oui, il faut de la persévérance pour courir la course de la vie chrétienne qui, mes amis, s'apparente plus à un marathon qu'à un sprint. Et nous devons en être conscients quand nous nous engageons dans cette course-là. Persévérance parce que nous vivons dans un monde qui n'a pas du tout les mêmes objectifs que que nous, bien évidemment. La course de la vie chrétienne ne fait pas partie des aspirations de la plupart de nos contemporains. Et beaucoup de choses, au contraire, tendent à nous éloigner de cette course. Persévérer aussi parce que notre propre nature pécheresse, elle aussi, constamment cherche à nous éloigner et à nous entraîner dans la direction opposée. Alors oui, il faut persévérer, mais comment y arriver ? Et je me contenterai ici simplement de souligner trois choses à partir de ce texte d'Hébreux 12, mais très très rapidement. Le coureur qui persévère est premièrement celui qui reste concentré sur son objectif. C'est celui qui ne se laisse pas distraire, et les occasions de distraction sont nombreuses. Il ne se laisse pas distraire en gardant les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement jusqu'à la fin. Le coureur qui persévère est deuxièmement celui qui court léger, celui qui rejette tout fardeau et tout péché qui nous enlace si facilement. Et oui, quand nous courons avec notre péché, pour ceux qui ont fait l'armée, c'est comme courir avec son paquetage sur le dos. Ça va 5 minutes, hein, et après, on a du mal, et au bout d'un moment, on s'arrête. Et le péché nous alourdit, nous freine dans notre course, dans la course de la vie chrétienne. Alors il faut nous en décharger au pied de la croix. Et là, nous repartons, nous courons léger, nous persévérons, les yeux fixés sur le but. Le coureur qui persévère, enfin, est celui qui s'appuie sur les frères et sœurs en Christ, en la foi. Il y a tous ceux qui nous ont précédés, qui ne sont plus là. Mais il y a des choses qui ont été écrites. L'histoire de l'Église nous rapporte tellement de richesses. Ils sont là, ils nous ont donné des exemples. Et puis il y a tous ceux qui courent aujourd'hui avec nous, qui sont engagés à nos côtés dans cette course, et avec qui nous pouvons courir, et sur qui nous pouvons compter aussi quand c'est un peu plus difficile. Ne pensons pas que nous pouvons y arriver tout seuls. Nous avons besoin les uns des autres. Et c'est dans la sagesse de Dieu que l'Église a été voulue, parce que nous avons besoin les uns des autres. Nous ne courons pas seuls. Une dernière chose que nous apprend l'image de la course appliquée à la vie chrétienne, elle nous apprend que nous ne sommes pas seuls, et en particulier nous ne sommes pas seuls parce que nous courons avec le Christ, en tout cas en fixant nos yeux sur le Christ. Il est celui qui court avec nous, devant nous, celui qui nous ouvre la voie, celui sur qui nous pouvons fixer notre regard. Il est notre guide, notre berger. On pourrait en rajouter des métaphores. Celui qui nous ouvre le chemin, celui qui nous rassure, celui qui nous fait éviter les ornières du chemin en pointant du doigt les dangers qui s'y trouvent. Et c'est un privilège et une grâce immense que d'avoir un tel guide dans notre course, un tel modèle, un tel compagnon de course. Alors revenons à la question du commencement pour terminer cette réflexion. Qu'est-ce qui me fait courir ? Qu'est-ce qui vous fait courir ? Êtes-vous engagé dans la course dont nous venons de parler, celle de la vie chrétienne ? Est-ce que vos yeux sont fixés sur le Christ ? Si tel est le cas, alors les autres courses de la vie vont trouver leur place, comme un puzzle que l'on fait au fur et à mesure. Si ce n'est pas le cas, alors je vous renouvelle cette question: pourquoi ne pas entrer dans la course aujourd'hui? Nous l'avons dit, c'est un choix que Dieu nous propose, et il nous laisse libre de le faire ou pas. Ce choix, je l'ai fait il y a quelque chose comme 35 ans maintenant. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des chutes et des victoires, il y a eu des encouragements, enfin je pourrais dire il y a encore, hein, tout ça je pourrais le mettre au présent. Il y a eu des encouragements et des doutes. Il y a eu des joies et des peines. Il y a eu des réponses et des interrogations qui demeurent. Mais jamais, jamais je n'ai regretté d'être entré dans cette course-là. Et un chant que nous chantons souvent dit ceci: ta bienveillance vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Au début, quand je le chantais, je me disais, est-ce que c'est vraiment vrai? Et je pense que je peux vraiment dire que c'est vrai pour moi. La bienveillance de Dieu vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Je n'ai peut-être pas tout vu, mais j'ai déjà vu deux, trois petites choses. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de bien à côté, mais ça veut dire qu'il n'y a rien de comparable à la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Il n'y a rien sur cette terre qui arrive à la hauteur de la grâce de Dieu. La grâce immense qui nous permet de devenir des enfants de Dieu et d'entrer dans la course de la vie chrétienne. Qu'est-ce qui fait courir le monde? Beaucoup de choses, mais ce n'est peut-être pas la question la plus importante pour nous. La plus importante pour nous, c'est qu'est-ce qui me fait courir? Qu'est-ce qui vous fait courir? Que Dieu nous aide chacun à bien choisir les courses dans lesquelles nous voulons bien courir. Amen. Je propose quelques instants de silence pour peut-être méditer l'une ou l'autre chose dans notre cœur. Nous avons parlé de course et nous avons parlé de persévérance, et c'est bien ce dont parle le chant que je vous invite à chanter maintenant, qui dit « Ne t'arrête pas en chemin, va jusqu'au bout ». C'est la persévérance. Je vous invite à vous lever pour chanter. C'est aussi pendant le chant que les boîtes passeront dans les rangs. C'est le temps de l'offrande, que chacun se sente libre d'y participer ou pas. Chantons.